On a vu que saint, c'est la description de Dieu. Dieu est saint. Et donc, sanctifier, on pourrait dire, c'est mettre en relation avec Dieu. Et mettre à part pour Dieu, ou on pourrait dire aussi réservé pour Dieu. Donc le verset de Lévitique 10, il est dit, il y a ce qui est saint et ce qui est profane. Donc dans ce sens-là, ce qui est saint, c'est ce qui est sanctifié, c'est ce qui est mis en relation avec Dieu. Et donc, qui a un caractère saint. Alors, on voit... Oui. Mais qui, c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais, mais c'est quelque chose. Oui. Profane, ça veut dire quoi? Donc c'est pas forcément quelque chose qui est mauvais, mais c'est quelque chose qui n'est pas en relation avec Dieu. Alors donc sanctifier, juste pour, peut-être en, pour commencer, il y a plusieurs choses ou personnes qui sont sanctifiées dans la Bible. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Alors, est-ce que vous savez la première chose qui est sanctifiée dans la Bible? Quelqu'un a dit? Je n'ai pas entendu. C'est ouais, Genèse 2, verset 3. Genèse 2, verset 3. Donc, c'est le dernier jour de la création. Il est dit... Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Et le sanctifia. Donc on comprend, un jour, en soi, c'est ni bien ni mal. Mais si Dieu sanctifie le septième jour, ça veut dire, dans ce sens-là, que Dieu prend ce jour pour lui. Il le met à part pour lui. C'est un jour qui appartient à Dieu. D'accord ? Donc, sanctifier, c'est cette idée d'être mis à part, d'être séparé pour Dieu. Et donc, par là, si c'est mis à part, séparé pour Dieu, c'est aussi séparé du mal. Tout ce qui n'est pas le péché, tout ce qui n'est pas en accord avec la nature de Dieu. D'accord ? Alors, on voit dans la Bible qu'il y a des choses ou des personnes qui sont sanctifiées. Par exemple, il y a un verset dans 1 Timothée chapitre 4 qui dit, mais je suis plus lent que prévu, donc peut-être on ne peut pas tout, à chaque fois tourner les pages de la Bible, mais dans 1 Timothée 4, au début du chapitre, il est dit que la nourriture est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. Et donc, je ne sais pas si vous... Parfois, il y a certaines personnes qui prient à table et qui s'expriment de cette manière en demandant que Dieu sanctifie la nourriture que l'on va prendre. Et donc, c'est, il me semble, en accord avec 1 Timothée 4, où il est dit que la nourriture est sanctifiée aussi par la prière. C'est-à-dire que on prend la nourriture comme si Dieu nous l'a donnée. Donc, on la prend en rapport avec Dieu. Et dans ce sens-là, on la considère comme sanctifiée. Donc, voilà, ce sens de la sanctification, donc c'est en relation avec la sainteté, mais avec cette idée de prendre quelque chose ou prendre des personnes et de les mettre pour Dieu, en relation avec Dieu, à part pour Dieu, elles appartiennent à Dieu, et donc elles vont... Si c'est des personnes, elles vont être appelées à revêtir les mêmes caractères de Dieu qui aime le bien et qui hait le mal. D'accord ? Donc ça, c'est, on pourrait dire, c'est la sanctification. Alors voilà, on pourrait citer beaucoup de passages, et on va en citer plusieurs autres encore, qui nous montrent que c'est cette idée-là. Alors, c'est un sujet qui n'est pas facile. Hein. Et donc, dans la sanctification, avec cette pensée qu'on a dit, c'est de mettre à part pour Dieu, et donc que la chose qui est mise à part pour Dieu, ou les personnes vont être appelées à avoir le même caractère que Dieu, Il y a différents aspects dans cette sanctification. Si c'est compliqué, vous levez la main et on essaye d'expliquer pour que tout le monde comprenne. Donc on va voir maintenant que cette sanctification, eh bien, elle peut être vue sous des points de vue différents. Alors, le premier point de vue, je l'appelle comme ça, c'est un point de vue absolu ou une position. Alors là, maintenant, je parle en rapport uniquement avec les croyants. D'accord ? Là, on oublie la nourriture, tout ça. Là, je parle maintenant avec nous, croyants. Nous sommes des sanctifiés. Et nous sommes appelés à la sanctification, à la sainteté. Et ça, ça a plusieurs aspects. Alors, le premier aspect, je disais, c'est l'aspect de quelque chose d'absolu, de définitif. Et c'est notre position qui ne change pas. Donc, alors tout à l'heure, je crois que c'est que ça a été cité le verset de début de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, c'est Claudine qui avait cité, je crois, 1 Corinthiens, que nous sommes des saints. Et il y a aussi 1 Corinthiens 1, nous sommes 1 Corinthiens 1, verset 2. Paul écrit à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés. Donc là, il y a même les deux aspects. Donc, ils sont appelés, les Corinthiens, l'assemblée de Dieu à Corinthe, les croyants qui composaient l'assemblée de Dieu à Corinthe, ils sont appelés les sanctifiés dans le Christ Jésus. Donc, ce sont des personnes qui sont désignés de cette manière, ce sont les sanctifiés dans le Christ Jésus. Ceux que Dieu a mis à part pour lui dans le Christ Jésus. Et si on continue dans cette épître, il y a aussi un verset dans le chapitre 6. Chapitre 6, versets 9 et 10, et 11 plutôt. Ouais. Alors, verset 9... et sont donnés des caractères très mauvais de certaines personnes. Il est dit, ne vous y trompez pas, ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Donc on voit toute une série de caractères de mal, de personnes qui vivaient dans le mal, caractérisées par le mal. Et Paul dit, « Ceux-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Et verset 11, « Et quelques-uns de vous, vous étiez tels. » Donc parmi les Corinthiens, il y en avait qui autrefois, avant de croire au Seigneur Jésus, qui étaient des fornicateurs, des adultères, des idolâtres, des efféminés, etc., etc. Mais il est dit, « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc on a vu en particulier, « Mais vous avez été sanctifiés. » Avant, vous étiez des pécheurs, mais maintenant, vous avez été sanctifiés. Ils ont changé. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolu, de définitif. Avant, c'était des pécheurs, maintenant, ce sont des sanctifiés. Encore une référence dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux 10. Hébreux 10, verset 10. Donc, il est question de la volonté, de la volonté du Seigneur qui dit « Voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Verset 10, c'est par cette volonté, donc la volonté de Dieu que le Seigneur Jésus était venu accomplir, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et verset 14, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité, ça veut dire éternellement, ceux qui sont sanctifiés. Donc là, on peut dire, c'est toujours cette même idée qu'on a là, quelque chose d'absolu, quelque chose de définitif. Eh bien, des personnes ont été sanctifiées. Et là, on voit que c'est par l'offrande de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, des personnes ont été sanctifiées définitivement. Et ces personnes qui sont sanctifiées, il est dit d'elles qu'elles ont été rendues parfaites à perpétuité. Donc ça veut dire, c'est quelque chose qui ne peut plus changer. C'est définitif. J'étais un pécheur, j'étais coupable devant Dieu, j'étais perdu devant Dieu, mais par le sacrifice du Seigneur Jésus, auquel je crois, je suis rendu parfait, non pas pour quelques heures, quelques jours, quelques années, mais à perpétuité. Vous comprenez ? Donc ça, sanctifié, rendu parfait à perpétuité. Donc là, on voit que dans cette idée d'être sanctifié, d'être rendu saint, il y a un aspect qu'on voit dans les versets qu'on a lus, par exemple, qui sont un aspect qui est définitif, absolu. Je suis sanctifié pour toujours. Je suis un saint pour toujours, parce que j'ai cru au sacrifice du Seigneur Jésus. Il y aurait encore quelques références à donner en rapport avec cet aspect-là, mais comme l'heure court, je saute quelques références et je passe au deuxième aspect. Oui. Ah ouais. Position, c'est que devant Dieu, je suis considéré comme saint, et ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec ma vie pratique, c'est-à-dire avec la qualité de ma vie de tous les jours, mais je suis considéré comme saint parce que j'ai cru au Seigneur Jésus. Et c'est quelque chose qui est une position, c'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu m'a donné et qui ne peut plus changer. Exactement. C'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous avons été sanctifiés. On a lu dans Hébreux 10, verset 10.
Quelque chose d'établi.
Ouais. On va y revenir un peu tout à l'heure, normalement, avec l'Épître aux Romains. Et voilà, c'est sanctifié pour l'éternité. Et donc, là-dessus, on comprend que l'idée de « je peux perdre mon salut », elle n'est pas en accord avec l'enseignement biblique. Si j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai cru en lui, j'ai cru en l'œuvre du Seigneur Jésus, je suis rendu parfait à perpétuité. Il n'y a rien qui pourra remettre en cause cela. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, il y a d'autres versets qui nous parlent de la sanctification, de la sainteté, mais dans l'aspect de notre vie pratique, de notre vie de tous les jours. Alors, je pense notamment à ce verset de 1 Pierre chapitre 1, qui est un verset qui est en fait une citation de l'Ancien Testament. 1 Pierre 1, verset 15, en tout cas en partie une citation de l'Ancien Testament. Il est dit, mais comme celui qui vous a appelé, donc Dieu, est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi je suis saint. Donc, Dieu nous appelle, dans un sens, Dieu nous a sanctifiés, nous sommes saints, absolu, position, définitif. De notre côté, le côté de la vie pratique, c'est que nous sommes appelés à nous conduire, à nous comporter comme des saints. Donc de vivre dans la sainteté pratique. Donc c'est un autre aspect, d'accord ? Et donc là, on voit, puisque Dieu qui nous a appelés est saint, nous sommes appelés à revêtir les mêmes caractères que lui, c'est-à-dire à nous aussi être saints dans la pratique. Alors on peut se poser la question, par rapport à tout ce qu'on a vu, mais comment est-ce que je peux être saint dans la pratique ? Alors je vais citer quelques versets qui donnent différents aspects de cette vie dans la sainteté pratique. D'accord ? Alors, il y a d'abord dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 17, il y a deux versets qui nous parlent sur ce sujet. Donc, Jean 17, c'est le Seigneur qui prie son Père au sujet des disciples. Alors, c'est un chapitre très riche. Et évidemment, on ne peut pas l'aborder maintenant. Mais il y a, au verset 17, le Seigneur dit dans sa prière à Dieu son Père, il dit ceci, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Et verset 19, il dit, « Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux. » Donc là, il y a de nouveau le verbe « sanctifier », mais avec un aspect légèrement différent, on va y revenir après. « Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Donc, d'abord, verset 17, le Seigneur demande « Sanctifie-les par la vérité. » Et il dit « Ta parole est la vérité. » Donc, c'est un premier aspect en rapport avec notre vie pratique. Être sanctifié par la parole du Père. Il dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole, donc la parole du Père et la vérité. » Donc, dans notre vie pratique, un premier aspect qui va nous aider à la sainteté pratique, c'est la parole du Père, la parole de Dieu, la parole du Père. Et alors, on peut se dire comment ? Comment ça va se produire ? Alors, j'essaie de donner un exemple. Par exemple, on aime tous, je pense, les enfants comme les plus grands, quel que soit notre âge. Il y a une histoire qu'on aime beaucoup dans la Bible, c'est l'histoire de dans la Genèse. Hein ? L'histoire de Joseph. Est-ce que c'est pas vrai ça que tout le monde aime lire l'histoire de Joseph ? Hein ? Eh bien, c'est un exemple. Le Seigneur demande dans sa prière, sanctifie-les par par la vérité, ta parole est la vérité. Donc on peut dire, la vérité c'est la parole du Père, donc on peut dire c'est la parole de Dieu à la lumière du Père. D'accord ? À la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de la révélation de Dieu comme un Père. Donc je donne un exemple. Je lis l'histoire de Joseph. Qu'est-ce que ça va produire en moi ? Qu'est-ce que ça produit en vous quand vous lisez l'histoire de Joseph ? Tout à fait. Quoi d'autre ? Est-ce que ça ne réchauffe pas vos cœurs ? Est-ce que, quand on lit l'histoire de Joseph, on voit son obéissance, comment il agit vis-à-vis de son père, comment il agit vis-à-vis de ses frères, comment il agit vis-à-vis de Potiphar, comment il agit vis-à-vis de toutes ces personnes-là. Est-ce que ça ne réchauffe pas nos cœurs ? Est-ce que ça ne nous fait pas aimer le bien de lire une telle histoire ? Oui. Et ça va aussi produire dans nos cœurs qu'on va avoir horreur du mal. Par exemple, on va voir comment les frères de Joseph ils se sont comportés vis-à-vis de lui. Comment la femme de Potiphar s'est comporté vis-à-vis de Joseph, etc., etc. Vous voyez, une histoire comme celle-ci, donc de la Bible, la parole de Dieu, eh bien, si je la lis, si je m'en occupe, eh bien, ça va me faire aimer le bien davantage, et ça va me faire aussi avoir davantage, avoir en horreur le mal. D'accord ? Donc, on pourrait dire, ça va me sanctifier. Et puis même, en lisant l'histoire de Joseph, je vais comprendre quoi ? Qu'il y a l'histoire de Joseph, mais que derrière l'histoire de Joseph, il y a quoi d'autre ? Joseph, il nous fait penser à qui ? Quand on lit son histoire. Benjamin, tu n'as plus le droit de répondre. Philippe. Voilà. Donc on va voir aussi que dans une telle histoire, il y a quelque chose derrière d'encore plus grand, en rapport avec le Seigneur Jésus. Et vous comprenez, ça va faire que nos cœurs se réchauffent, que nos cœurs aiment le bien, aiment le Seigneur Jésus et davantage en horreur le mal. Donc, c'est un aspect, la parole de Dieu, qui va nous contribuer à notre sanctification pratique. Après, verset 19 du même chapitre. Le Seigneur dit, « Moi, je me sanctifie moi-même pour eux. » Donc là, on voit, le Seigneur dit, « Je me sanctifie pour eux. » Donc on peut se dire, mais le Seigneur Jésus, il est saint. Il n'avait pas besoin de se rendre encore plus saint. Il était déjà. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur dit « Je me sanctifie pour eux » Bien, il me semble qu'on peut dire, c'est que le Seigneur Jésus, il se met à part. Il se met à part pour nous, pour que, se mettant à part pour nous, en rapport avec Dieu, que nous, on puisse le regarder et le contempler. Et il se sanctifie lui-même pour nous, afin que nous aussi nous soyons sanctifiés. Donc, le Seigneur Jésus se met à part, il se sanctifie, pour qu'on puisse le regarder, le contempler, l'admirer. Et ça, ça va contribuer à notre sanctification. Donc on peut dire que de regarder au Seigneur Jésus, et en particulier au Seigneur Jésus, penser à lui dans le ciel, dans la gloire, c'est pour ça que j'ai mis un ciel comme ça, eh bien, ça va contribuer à notre sainteté. Et là, je fais une petite publicité, si vous me permettez. Il y a un livre qui vient de sortir à Vevey, EBLC, c'est un livre qui est traduit de l'allemand, de Michael Hart, qui s'appelle... Vous me verrez. En fait, c'est une. Vous me verrez, c'est le Seigneur qui dit ça en Jean 14 à ses disciples, en rapport avec le fait qu'il va partir dans le ciel, qu'il allait laisser ses disciples, et il leur dit : Mais vous me verrez. C'est-à-dire que les disciples allaient voir le Seigneur Jésus dans le ciel, mais pas avec leurs yeux, mais avec leur foi. Et que, donc, ce livre-là, je le mentionne dans ce contexte, c'est un livre qui présente, qui explique en fait que le fait de regarder, de penser au Seigneur Jésus dans la gloire du ciel, eh bien tout cela a énormément d'effet dans notre vie pratique. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est Jean 17, verset 19. « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés. » Alors, je vous conseille... d'acheter ce livre qui vient de sortir, parce que ça nous parle du Seigneur Jésus dans le ciel, et ça nous montre tout ce que cela peut produire dans nos vies pratiques. Et c'est énorme. Alors il y a un seul inconvénient à ce livre, c'est quoi ? Le prix. C'est les Suisses. D'accord ? Donc c'est une parenthèse, mais sérieusement, c'est un livre qui est très important en fait, et qui nous montre en fait que de regarder au Seigneur Jésus dans le ciel, ça change la vie. Ensuite, d'autres références d'autres références qui nous parlent pour la sainteté pratique. Alors, je suis obligé de faire un peu plus vite. Il y a dans 1 Thessaloniciens, c'est-à-dire ce verset. Thessaloniciens 5, verset 23. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est un verset. Alors, voilà, encore une fois, on est obligé de faire un peu vite, mais c'est un verset qui nous montre que notre sanctification, il y a aussi l'aspect que Dieu nous sanctifie entièrement. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Et on voit que dans ce verset, qu'en rapport avec notre sanctification, il y a notre esprit, notre âme et notre corps qui sont concernés. Esprit, âme et corps. Donc, c'est-à-dire que notre sainteté pratique, elle est en rapport avec notre esprit, notre âme et notre corps. Ça veut dire que mon esprit, c'est les pensées que j'ai, les idées que j'ai. Les pensées et les idées que j'ai, elles peuvent être impures, elles peuvent être saintes. D'accord ? Donc, on a besoin d'être sanctifié dans notre esprit, aussi dans notre âme. Peut-être c'est plutôt le côté de nos affections, de nos sentiments. Je peux avoir des sentiments, des affections qui sont impures. Je suis appelé à avoir des sentiments, des affections qui sont pures. Et mon corps, ce que je fais avec mon corps. Aussi, on peut penser par là, mais il n'y a pas que ça, aussi tout le domaine de la sexualité. Eh bien, on peut être impur avec le corps. D'accord ? Donc la sainteté, ça concerne notre esprit, notre âme et notre corps tout entier. Tout. Et Dieu, le Dieu de paix, une belle expression, qui nous sanctifie entièrement. Ensuite, j'aimerais mentionner encore le verset dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, qui est le verset connu, c'est Christ en rapport avec l'assemblée. Verset 26 de Éphésiens 5. Donc Christ sanctifie, verset 26, son assemblée, en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. Donc là, c'est cette idée qu'il y a un lavage d'eau, c'est-à-dire que par la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand je lis la parole de Dieu, ça va me laver. Ça va me nettoyer, ça va me purifier. Et ma sanctification personnelle aussi, alors là c'est le côté collectif, mais il y a aussi le côté personnel, c'est quand je lis la parole de Dieu, elle va me laver, me nettoyer dans mes idées, dans mes pensées, dans mes affections, et ça contribue à la sainteté. D'accord ? Ensuite, je mentionnais deux versets, mais on ne va pas avoir le temps de les développer. Mais un dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, qui nous montre la sainteté ou la sanctification en rapport avec l'amour. C'est le verset 12 et 13 de 1 Thessaloniciens 3. Donc Paul dit que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père, etc. Donc on voit dans ce verset qu'il y a un lien entre l'amour et la sainteté. Si je suis dans des dispositions de cœur où j'aime les autres, mes frères et sœurs, eh bien, ça va contribuer à la sainteté aussi. Donc, la sainteté, il ne faut absolument pas la mettre en contradiction avec l'amour. Ça va ensemble. Et on voit dans ce verset de 1 Thessaloniciens 3 que l'amour contribue à la sainteté. Ça, c'est, je donne ça pour, aussi pour y penser. Et aussi un autre aspect de la, qui contribue à la sainteté, à la pureté, c'est, on le trouve dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Alors, il est parlé de notre espérance. Deuxième partie du verset 2. Nous savons que quand Christ sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Ça, c'est l'espérance. Le Seigneur Jésus va venir, et quand il va venir, nous allons lui être rendus semblables, et nous allons le voir comme il est. Et il est dit, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Donc, il y a aussi un lien entre l'espérance et la pureté pratique. Voyez ? Donc, et ça, c'est aussi un aspect auquel il faut penser. Et bon, on n'a pas le temps de développer maintenant, mais il y a l'amour qui est en lien avec la sainteté pratique. Il y a aussi l'espérance qui contribue à la sainteté pratique. D'accord ? Donc on a vu quelques points. On a vu la parole de Dieu, la parole du Père, avec l'histoire de Joseph, qui contribue à ma sainteté pratique. On a vu le Seigneur Jésus dans le ciel. Si je pense à lui, si je le contemple par la foi, ça va me le faire aimer davantage et ça va contribuer à ma sainteté pratique. La parole de Dieu qui va me laver, l'amour qui va m'aider, me pousser à la sainteté et l'espérance qui va aussi me conduire à la sainteté. Donc tout ça, ces aspects-là, voilà, c'est un peu rapide, mais tout ça, ça contribue à notre vie de sainteté pratique. D'accord ? Et il y aurait un ou deux autres aspects que je veux souligner. Il y a, dans quelques passages, peut-être deux, peut-être plus, je ne sais pas, il y a un aspect de la sanctification qui est, on pourrait dire, seulement extérieur. C'est-à-dire qui fait que des personnes sont considérées comme sanctifiées par d'autres personnes extérieures, mais sans que ça corresponde au premier ou deuxième aspect. Je mentionne juste ces deux références là que j'ai en tête. C'est dans 1 Corinthiens 7. Dans 1 Corinthiens 7, il est question d'un couple, mari et femme, où il y en a un des deux qui est incrédule et un des deux qui est croyant. Et ils ont des enfants. Et il est dit au verset 14, il est dit « Le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme est incrédule est sanctifiée par le frère, son mari. » Puisque autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. » Donc là, il faut bien comprendre, dans ce verset-là, qu'on vient de citer, ce n'est pas le premier aspect de la sanctification, de la sainteté, ni le deuxième, mais c'est un troisième. C'est des personnes qui sont considérées comme saintes, mais simplement extérieurement, parce qu'elles appartiennent à une famille de croyants. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu le travail de Dieu dans leur cœur, et qu'elles soient sanctifiées pour l'éternité, d'accord ? Mais puisqu'elles sont dans une famille de croyants, extérieurement, on va les considérer comme des saints, comme en rapport avec Dieu, mais ça reste extérieur. Ce n'est pas nécessairement vrai dans leur cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a cette même idée dans un autre passage, dans Hébreux chapitre 10, mais je ne veux pas non plus troublé par cette considération. Hébreux 10, verset 29. En fait, il est question de personnes qui ont un temps embrassé le christianisme, C'est-à-dire qu'on professait être des chrétiens, extérieurement, et qui ont changé d'avis. Et il est dit de ces personnes, « D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane, on revient au profane de tout à l'heure, le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce. » Donc, je mentionne juste ce verset pour dire que c'est cette même idée, cette troisième idée, quelque chose d'extérieur, c'est quelqu'un qui a été sanctifié vis-à-vis d'autres personnes, dans ce sens qu'on a pensé que c'était un chrétien, que c'était un croyant, mais en fait, il a changé d'avis après, et ce qui s'est passé a démontré que ça n'avait pas été un vrai croyant. Donc c'est cette idée qu'il y a l'aspect parfois dans la Bible, au moins dans ces deux versets, d'une sanctification qui est simplement extérieure et qui ne correspond pas aux deux premiers points. On a donné quelques idées un peu générales et principales sur le sujet de la sainteté, de la sanctification. Donc, on est rendu saint par l'œuvre du Seigneur Jésus, une fois pour toutes, et on est appelé à vivre pratiquement dans la sainteté, dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est retenons ces deux points-là, d'accord ? En rapport avec la sainteté. On a vu ce que c'était, la sainteté. Alors maintenant, on change un peu de terme, mais les idées, elles vont toujours être un peu les mêmes, mais avec d'autres mots et d'autres références. Et maintenant, j'aimerais qu'on aborde un peu l'épître aux Romains et qu'on regarde ces deux sujets que j'appelle ici la justification et la délivrance en rapport avec l'épître aux Romains. Donc par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on pourrait dire que la justification, ça ressemble beaucoup à la sainteté absolue ou de position. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la délivrance, ça sera plutôt en rapport avec la sainteté pratique. Notre vie de tous les jours. Alors, je dis tout de suite, la délivrance, c'est, on pourrait dire aussi, la libération ou l'affranchissement. Délivrance, on va y revenir plus tard. Donc là, maintenant, on va parler un peu de l'Épître aux Romains et des 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, pas trop en détail, mais j'aimerais donner un petit peu des versets clés et des idées clés en rapport avec ces sujets. Alors, on pourrait dire que dans ces 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, le sujet, c'est l'Évangile au sens large, et en fait, on pourrait dire que ça répond à deux questions que l'on peut se poser, deux questions importantes. Donc, la première question, c'est qu'en est-il de mes péchés ? C'est-à-dire, j'ai commis un homme, moi-même, j'ai commis des péchés dans ma vie. Qu'en est-il de cette question en rapport avec tous les péchés que j'ai commis vis-à-vis de Dieu ? Alors, c'est peut-être des sujets que beaucoup sont au clair, mais j'aimerais quand même qu'on y repasse dessus, parce que c'est des sujets qui sont fondamentaux. La deuxième question, c'est, on verra, la question des péchés, une fois qu'elle est traitée, il y a une deuxième question qui va se poser, qui se pose dans notre vie, c'est, est-ce que, maintenant que je suis un croyant, est-ce que je suis obligé de continuer à pécher dans ma vie. Vous voyez donc la différence. Qu'en est-il des péchés que j'ai commis ? Et maintenant que je suis croyant, est-ce que c'est normal ? Pourquoi est-ce que je dois continuer à pécher dans ma vie, maintenant que je suis un croyant ? Donc, par rapport à ces deux questions, on pourrait dire qu'il y a deux sujets, deux réponses. La première réponse, c'est en rapport avec mes péchés que j'ai commis. J'ai besoin d'être justifié de mes péchés. Et en rapport avec la deuxième question, en rapport avec le fait de pécher, de continuer à pécher, j'ai besoin d'être délivré. Donc ça, c'est, on pourrait dire, les deux grandes questions qui peuvent résumer les huit premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Alors, l'Épître aux Romains, je ne sais pas si vous l'avez lu encore récemment, c'est pas facile à comprendre. C'est quand on le lit, quand on la lit, quand on la relit, c'est pas facile à comprendre. Pour personne, même pour les plus âgés, je suis sûr que personne ne comprend facilement l'Épître aux Romains. Ça serait faux si quelqu'un dit « Moi, je lis l'Épître aux Romains, j'ai tout compris du premier coup. » C'est pas vrai, c'est un menteur, celui qui dit ça. C'est pas facile. Et même pour ceux qui sont plus âgés, plus avancés, c'est pas facile. Il faut la lire, il faut la relire, la re-relire. Mais elle est très importante. D'accord ? Alors, retenons qu'elle pose ces deux questions et qu'elle répond à ces deux questions. On va y revenir. Alors, donc, dans l'Épître aux Romains, on a vu les deux questions. On pourrait dire que la première partie de l'Épître aux Romains, elle va traiter le sujet de mes péchés que j'ai commis, et elle va me montrer comment Dieu peut me justifier des péchés que j'ai commis. Et la deuxième partie de l'Épître aux Romains va me montrer comment je peux être délivré, libéré, affranchi de la puissance du péché qui était en moi. On va revenir. D'accord ? Donc vous avez remarqué, dans un cas, je parlais de péché au pluriel, et dans l'autre cas, c'est péché au singulier. On pourrait dire, les péchés, c'est le fruit, et le péché, c'est l'arbre qui produit le fruit. D'accord ? Les péchés que j'ai commis, ce sont des fruits qui viennent d'un mauvais arbre, le péché qui est en moi. Donc ce n'est pas la même chose. Mais Dieu, on pourrait dire, il a une solution, une réponse à chacun des deux problèmes. Et l'Épître aux Romains montre ces réponses, entre guillemets, la solution que Dieu offre à ces deux questions. Alors, l'Épître aux Romains, on a dit que ça nous parle de l'Évangile de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est l'Évangile ? Qu'est-ce que ça veut dire l'Évangile ? Je propose des questions. Séphora, qu'est-ce que ça veut dire l'Évangile ? Si tu devais donner un synonyme pour l'Évangile, tu dirais quoi ? Parole ? Est-ce qu'il y a d'autres qui auraient... Benjamin, tu dirais quoi ? Ça veut dire quoi l'Évangile ? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. L'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. D'accord ? Comment on dit l'Évangile en anglais ? Ou en allemand ? Gospel en anglais et en allemand. Hein ? Du Gute Botschaft ? Ok. Donc c'est la bonne nouvelle. D'accord ? Donc l'Évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Donc c'est Dieu a une bonne nouvelle à annoncer. C'est l'Évangile. Alors, j'aimerais d'abord citer quelques versets qu'on pourrait dire clés de l'Épître aux Romains en rapport avec ce sujet. D'accord ? La première chose, c'est versets 2 et 3 de l'Épître aux Romains, chapitre 1. Il est dit que Paul, qui est l'esclave de Jésus-Christ, c'est l'apôtre appelé, mis à part pour l'Évangile de Dieu, je saute la parenthèse, l'Évangile de Dieu touchant son Fils. Ça veut dire... l'évangile de Dieu au sujet de son Fils. Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Pardon ? C'est la bonne nouvelle que Dieu a au sujet de son Fils. Donc, si Dieu a une bonne nouvelle à nous annoncer, c'est en rapport avec son Fils, au sujet de son Fils. C'est lui qui est au centre de la bonne nouvelle. Ça, c'est un premier point qu'il faut retenir. L'évangile de Dieu touchant son Fils, au sujet de son Fils. C'est par lui qu'il y a une bonne nouvelle pour les hommes. Ensuite, un autre verset qui est important dans l'épître aux Romains, c'est le verset 16. Romains 1, verset 16. Il est dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, et ceci, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. » Donc cet Évangile, cette bonne nouvelle de Dieu au sujet de son Fils, il est dit dans ce verset que c'est la puissance de Dieu en salut. La puissance de Dieu pour sauver. Alors, quand on pense à la puissance de Dieu, à quoi on peut mettre la puissance de Dieu en rapport ? Avec sa création. On voit l'extraordinaire puissance de Dieu qui a créé toutes choses. Quand on regarde l'univers, quand on regarde avec un microscope tout ce que Dieu a créé, quand on regarde le corps humain, comment ça fonctionne, on est émerveillé par la puissance de Dieu qui a créé tout ça. On peut mettre aussi la puissance de Dieu en rapport avec quoi ? Si je pense au déluge. C'est Dieu qui a... Déluge, c'est quoi ? Dieu qui a... Qu'est-ce que Dieu a fait avec le déluge ? Oui ? Il a détruit la terre. Donc, mais c'était aussi, on pourrait dire, la puissance de Dieu qui a permis qu'il y ait beaucoup d'eau sur la terre pour détruire la terre. Mais là, l'évangile, ce n'est pas pour créer des choses, ce n'est pas pour détruire des choses, mais c'est pour sauver des personnes. Et donc, pensez à ceci, l'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour sauver. Et ça nous touche nos cœurs. Que Dieu met toute sa puissance en exercice pour sauver des personnes. Donc ça, c'est un verset. La puissance de Dieu en salut à quiconque croit. C'est un verset qui est fondamental. Il y a aussi le verset 17 qui dit, Romains 1, verset 17, la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi. Donc, c'est que dans cet évangile, qui est là, je ne répète pas à chaque fois ce que c'est l'évangile, mais dans cet évangile, il y a une révélation, c'est la révélation de la justice de Dieu. Donc, on va voir dans cet évangile quelque chose qui est révélé là, spécialement, la justice de Dieu. Voilà. Donc c'est contenu dans l'évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver, il y a la justice de Dieu. Donc ça, c'est des expressions qu'on voit au début de l'épître aux Romains qui nous touchent par rapport au sujet de l'évangile, qui nous montrent combien ce sujet est précieux et combien ce sujet est important. Et puis, si je continue l'épître aux Romains, je vais avoir verset 18, quelque chose qui peut-être est moins réjouissant. Il est dit « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. » Donc on a dit qu'il y avait une bonne nouvelle de Dieu, que Dieu voulait sauver, qu'il voulait révéler sa justice, et là on voit, il y a la colère de Dieu qui est révélée du ciel. Donc, en fait, ça c'est quelque chose qui nous impressionne. La colère de Dieu est révélée du ciel. Ça veut dire que Dieu manifeste depuis le ciel son déplaisir, on pourrait dire. Son déplaisir en rapport avec les hommes. Donc, dans cette première partie de l'Épître aux Romains, Dieu va montrer en quoi sa colère est révélée. Et donc, on va dire que dans cette Épître aux Romains, dans la première partie, jusqu'au chapitre 5, verset 11, on va voir d'abord que Dieu exprime sa colère en rapport avec les hommes. Et en rapport avec tous les hommes. D'accord ? Et, par exemple, on pourrait diviser en trois groupes les personnes qui sont considérées dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Alors, je mentionne les païens. On va dire que ce qui les concerne est traité à partir du verset 19 du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 1. Les païens, bonne question, c'est quoi ? Ce sont tous les peuples de la terre en dehors des juifs, c'est-à-dire tous les hommes qui n'avaient pas bénéficié, qui n'avaient pas eu le privilège de la révélation de Dieu de l'Ancien Testament. C'étaient les païens. Ils vivaient avec leurs idoles. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et donc, la colère de Dieu est révélée contre eux. Mais aussi, chapitre 2, verset 1, contre celui qu'on peut appeler le moraliste. Le moraliste, c'est celui qui donne la leçon aux autres. Il dit, vous vous faites mal, vous vous comportez mal, parce que vous faites ceci, vous faites cela, vous vous comportez mal. Le problème, c'est que le moraliste, lui aussi, il se comporte mal. Il voit le problème chez les autres, mais il fait la même chose que ce qu'il reproche aux autres. Et puis, troisièmement, il y a, on pourrait dire, l'homme religieux. C'est à partir du chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, verset 17, il est question, « Et toi qui portes le nom de juif, etc. etc. » Lui, ce n'était pas un païen. Le juif, l'homme religieux, il connaissait la loi de Dieu. Il connaissait la révélation que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament. Mais il utilisait cela pour s'enorgueillir, en quelque sorte, pour se considérer meilleur que les autres. Il disait, moi, j'ai la connaissance de ce que Dieu a révélé dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas un païen. Je ne suis pas comme ces autres-là qui vivent dans la débauche, qui vivent dans le mal, qui ont des idoles. Moi, j'ai eu la connaissance du vrai Dieu. Mais quel est son problème à lui ? Que même s'il a la connaissance du vrai Dieu, il pêche aussi, il commet des péchés aussi. Donc on peut dire que, je fais un résumé du début de l'Épître aux Romains, c'est les hommes, quels qu'ils soient en fait, qu'ils soient des païens, qu'ils soient des moralistes, qu'ils soient des hommes religieux, eh bien en fait, ils sont tous des pécheurs. Ils ont tous commis des péchés, ils commettent tous des péchés, et donc ils sont pécheurs devant Dieu. Et qu'est-ce qu'ils méritent ? Qu'est-ce qu'ils méritent ? Ils méritent le jugement de Dieu et la mort. D'accord ? Alors, il y a juste, je montre un site de deux expressions, par exemple, fin du chapitre du verset 20, fin du verset 20 du chapitre 1. De manière à les rendre inexcusables. Verset 1 du chapitre 2, c'est pourquoi tu es inexcusable ô homme, qui que tu sois qui juge. Vous voyez ce mot ? Inexcusable. Les hommes, ils n'ont pas d'excuses devant Dieu. Aucun. Qu'ils soient païens, qu'ils soient moralistes, qu'ils soient religieux, dans leur contexte, bon, je ne peux pas le développer maintenant, c'est ce qu'il y a dans les chapitres, mais Dieu leur a montré quelque chose de lui. Et s'ils se comportent comme ils se comportent, c'est leur faute et ils sont inexcusables devant Dieu. Tous les hommes. Et là, je cite le verset chapitre 3, verset 20, verset 19, chapitre 3, verset 19. On pourrait dire que c'est la conclusion en rapport avec la colère de Dieu qui est révélée du ciel vis-à-vis des uns, des autres. Il est dit que toute bouche soit fermée, parce que les hommes, et nous on est comme ça par nature, on veut toujours ouvrir notre bouche pour se justifier. Mais devant Dieu, toute bouche sera fermée. On ne pourra rien dire devant Dieu. Il nous connaît, il connaît les péchés, ce que les hommes ont fait, et la bouche des hommes sera fermée. Et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Donc on peut dire que le début de l'Épître aux Romains, il montre quelque chose qui n'est pas encore la bonne nouvelle. Hein. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est le contraire, presque. C'est une mauvaise nouvelle. Mais c'est quelque chose qu'il est nécessaire d'entendre et de comprendre. C'est que les hommes, tous, quels qu'ils soient, ils sont coupables devant Dieu. Et donc, tous les hommes, nous tous, naturellement, à cause de ce qu'on a commis, de ce qu'on a fait, on mérite la condamnation de Dieu. Vous comprenez pourquoi j'ai mis le petit symbole au-dessus ? Vous savez ce que c'est ? C'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? C'est le ? Voilà. Quand il donne le verdict, il tape et c'est fini. Et le verdict de Dieu contre les hommes, tout le monde est coupable devant Dieu. Très sérieux. Donc on peut dire, c'est la mauvaise nouvelle, dans un sens. Et le verset 23 de Romains 3 nous dit, il n'y a pas de différence entre les hommes, il n'y a pas de différence, que ce soit des Français, que ce soit des Allemands, que ce soit des Africains, que ce soit des Arabes, que ce soit des Chinois, que ce soit des Américains, aucune différence. Ils sont tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ils sont tous coupables. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Puis il y a un verset que j'ai mis en vert là. C'est le verset 22 du chapitre 3 qui nous parle qu'il y a quelque chose qui est manifesté maintenant dans le contexte qu'on a vu. Il y a la justice de Dieu qui est révélée, qui est manifestée. Et regardez bien les expressions. Envers tous et sur tous ceux qui croient. C'est le verset 22 de Romains chapitre 3. Et ça, ce verset-là, il est très important, il est très riche. Vous avez remarqué les deux mots, envers tous et sur tous ceux qui croient. Ça nous montre la justice de Dieu, elle est envers tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, il propose, il offre sa justice à tous les hommes. Tous, quels qu'ils soient. Il n'y en a aucun qui peut dire, moi je suis trop ceci, trop cela, ce n'est pas pour moi. Non. La justice de Dieu, elle est envers tous. C'est-à-dire que Dieu offre sa justice à tous les hommes. Mais par contre, tous ne l'acceptent pas. Tous ne la reçoivent pas. Et donc, elle est sur tous ceux qui croient. Donc, elle est offerte à tous les hommes, mais elle est effective seulement chez ceux qui croient. Donc on voit d'un côté Dieu qui, dans sa bonté, qui offre sa justice à tous les hommes, mais cela est effectif seulement chez ceux qui croient. Donc ça, c'est un très beau verset, et je mentionne que dans beaucoup de traductions de la Bible, ce verset-là, il est mal traduit. Et il est simplement dit « la justice de Dieu envers tous ceux qui croient ». Et en fait, c'est aussi un petit verset qui montre la qualité d'une traduction, c'est quand il est bien traduit comme ça. Envers tous et sur tous ceux qui croient. La justice de Dieu qui est offerte à tous les hommes, mais qui est effective sur tous ceux qui croient. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Dieu, il offre sa justice, c'est-à-dire qu'il justifie. Qu'est-ce que ça veut dire justifier ? Ça veut dire être déclaré juste. Donc, on a vu qu'on est tous coupables devant Dieu, mais Dieu, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui croient, eh bien, ils sont justifiés. Non plus coupables devant Dieu, mais désormais justifiés, déclarés justes. Et c'est gratuit. Dieu offre sa justice gratuitement, il ne fait pas payer. On n'a pas à payer, on n'a pas à accomplir quelque chose, à donner quelque chose à Dieu. Non, c'est lui qui donne sa justice, qui justifie gratuitement, et il le fait dans sa grâce. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Tous sont pécheurs, tous sont coupables devant Dieu, tous méritent la condamnation du juge, mais le juge, on pourrait dire, il offre d'être déclaré juste à ceux qui croient au Seigneur Jésus. Et c'est gratuit, et c'est dans sa grâce. Donc, pour toujours résumer cette première partie de l'Épître aux Romains, donc il y a une justification qui est possible, que Dieu donne, et c'est beau de voir que cette justification, elle est présentée sous trois aspects différents. Il est dit que nous sommes justifiés par sa grâce, par la grâce de Dieu. C'est en fait le motif de Dieu. Dans sa grâce, il veut nous justifier. Le moyen d'obtenir cette justification, c'est la foi. Je crois, et donc je suis justifié. Il est aussi dit, nous sommes justifiés par le sang de Christ. Et c'est l'aspect du prix qui a été payé pour qu'on soit justifié. Mais c'est beau de voir qu'on est justifié par la grâce de Dieu, par la foi et par le sang de Christ. Ça, c'est très important d'y repenser à ça. Donc, en résumé, dans le début de Romains, Dieu me montre que je suis en faillite devant lui. Il me dit que le Seigneur Jésus a payé la dette, ma dette, sur la croix. Si je reconnais ma culpabilité et que j'accepte l'offre de Dieu, l'Évangile, alors Dieu me déclare juste, tout en restant juste. C'est un autre aspect. Donc, je reconnais que je suis pécheur. Christ a payé le prix à ma place sur la croix. Je le crois. Je reconnais ma culpabilité. J'accepte l'offre de Dieu. Et donc, je suis déclaré juste. Ça, c'est le message de l'Évangile. Après, on peut se poser la question, mais est-ce que la mort du Seigneur Jésus, est-ce que le sang du Seigneur Jésus, ça suffit vraiment pour me racheter, pour me justifier ? Et il y a un verset qui dit « Il a été livré pour nos fautes et il a été ressuscité pour notre justification. » C'est-à-dire que le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau, c'est la preuve, c'est la démonstration que je suis justifié. Donc il y a le sang de Christ, et la résurrection du Seigneur Jésus. Le sang, c'est le prix qu'il a payé, et sa résurrection, c'est la preuve que Dieu a accepté, accepté le prix, et que si on croit en lui, on est justifié. Et puis pour terminer cette partie, il y a les deux premiers versets de chapitre 5 qui terminent la partie de la justification. Et c'est un très beau verset, deux très beaux versets, qui nous dit ceci. « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc simplement, ça c'est un verset à méditer aussi. Il nous dit, nous avons la paix avec Dieu. J'étais pécheur, j'étais coupable, maintenant j'ai été justifié et j'ai la paix avec Dieu. Tout mon passé, c'est réglé. Dans le présent, je suis dans la faveur de Dieu. Et nous avons accès à cette faveur dans laquelle nous sommes. Je suis dans la faveur de Dieu. Dieu m'aime, Dieu est pour moi, aujourd'hui, maintenant que je crois. Et quant à l'avenir, nous nous réjouissons, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui concerne notre passé, notre présent, notre futur, tout est réglé par l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous avons la paix avec Dieu, nous sommes dans la faveur de Dieu et nous attendons l'espérance de la gloire de Dieu. Ça, c'est les privilèges de celui qui croit au Seigneur Jésus et qui est justifié. Et je cite ce verset de Romains 8 qui dit « Qui intentera accusation contre des élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie, qui est celui qui condamne. » Le juge suprême, Dieu, nous a déclarés justes. Plus personne ne peut nous condamner. Nous sommes justifiés pour l'éternité. Nous sommes, comme on l'a vu tout à l'heure avec la sanctification, rendus parfaits à perpétuité. D'accord ? Donc ça, c'était la question, la première question, nos péchés, mes péchés que j'ai commis, bien voilà. Dieu, comment il résout la question par l'œuvre du Seigneur Jésus, par le sang du Seigneur Jésus qui a été versé à la croix, par sa résurrection. Nous qui croyons en lui, nous sommes justifiés de tous les péchés que nous avons commis.